Tu nous lis une histoire d'aventure, s'il te plaît.
Une histoire, n'importe laquelle, mais s'il te plaît, une histoire! Moi, ce que je voudrais, c'est une histoire avec du suspense. Beaucoup de suspense.
Moi, ce que je voudrais, c'est une histoire avec plein de magie.
Encore une histoire!
Encore une histoire!
Encore une histoire!
Les histoires n'attendent que vous pour être lu. C'est le slogan de l'association Lire et faire lire.
Des lectrices vous présentent leur coup de cœur en littérature de jeunesse et espèrent titiller votre curiosité. À vous d'en partager le plaisir avec les enfants.
Vous retrouverez ces présentations de livres sur le blog de Lire et faire lire https://lire-et-faire-lire.org et sur le site de Thème Radio à la rubrique podcast.
Les éditions Actes Sud Junior rassemblent dans une collection intitulée Les grands livres des rééditions et des créations originales qui comprennent 6 titres de la même autrice, Adela Turin, dont cet album. Les 5 femmes de Barbare Jean. Il a été traduit en français par un collectif des éditions des femmes, maison mythique qui, depuis plus de 50 ans, relaie des publications de femmes centrées sur leur émancipation et dont l'engagement n'a jamais altéré la qualité littéraire. Quant à l'autrice, Adela Turin, elle a fondé en Italie dans les années 70, Du côté des petites filles, une maison d'édition originale destinée à promouvoir pour les enfants une littérature non sexiste et à les sensibiliser en douceur à des questions sociales avec simplicité et humour. Si le titre peut évoquer la barbe bleue de Perrault et les illustrations faire penser aux mille et une nuits, le Maharaja de l'histoire s'illustrera moins par une cruauté sanguinaire que par un machisme invétéré qui ne triomphera pas ici. Allongé sur des coussins de soie, servi par des domestiques déférents, il parcourait parfois son immense royaume dans un train plaqué d'or qui glissait sur des rails d'argent. Barbare Jean était vaniteux. Ses vêtements étaient coupés et cousus par le meilleur tailleur de Londres. Sur son turban brillait la plus grosse topaze du monde. Ses pantoufles en peau de gazelle, brodées de perles, étaient faites à Florence par une famille de maroquiniers qui ne travaillaient que pour lui. À ce portrait peu flatteur, l'autrice ajoute « Les très pauvres paysans qui cultivaient les fruits et les légumes pour sa table » extrayait les pierres précieuses de ses montagnes, récoltait le thé, le poivre, le gingembre et le coton, qui faisait sa richesse, le regardait passer, terrorisé. Mais l'homme s'ennuyait et il décida un jour que le moment était venu pour lui de se marier. L'épouse que son père lui trouva était douce et timide. Lisa n'était pas à son goût, elle l'ennuyait à mourir. Il la répudia très vite dans un autre palais. Cette fois, son père lui proposa la fille du grand vizir de Bicanora, une poétesse qui composait en s'accompagnant au sitar. Le lendemain, Barbare Jean la fit appeler pour qu'elle le suive dans sa promenade matinale. Anna s'excusa de ne pouvoir le faire, elle composait une chanson. Barbare Jean, furieux, confisqua son instrument. Au dîner, privée de son sitar, elle se mit à battre le rythme avec ses bagues contre les coupes de cristal pour raconter en alexandrin la colère de Barbare Jean, ses imprécations et ses menaces. Les invités et même les serviteurs rirent aux larmes devant le Maharaja humilié. Très tôt le lendemain matin, il envoya Anna rejoindre Lisa dans le palais d'Émeraude où elle se languissait entre ses chats, ses perroquets et ses rosiers. Bien vite, les imitations d'Elsa chassèrent sa mélancolie et leur vie devient plaisante entre rires et chansons. Quand Zelda, La troisième femme de Barbargent arriva au palais à bord d'un petit avion qu'elle pilotait. Oh, celui-ci fut impressionné. Il comprit cependant très vite qu'elle ne resterait pas sagement auprès de lui, sa passion pour la musique l'entraînant toujours plus loin et plus longtemps, vers des festivals, à Salzbourg, Paris, Capri. Elle rejoignit Anna et Lisa dans le palais d'Émeraude. Quant à sa quatrième femme, Florinda, il annonça un jour « Très chère, je voudrais m'instruire pour être digne d'un homme cultivé comme toi. » Le vaniteux Barbargent approuva son propos. Quelques semaines après, arrivèrent au palais des professeurs, des livres et des instruments de musique. Très vite, Florinda se révéla être une étudiante insatiable et surdouée. Vous devinez que Barbargent ne va pas supporter longtemps cette émule qui ne le sert plus sur un plateau, ne l'écoute même plus, ou pire, le corrige quand il profère une inexactitude. Elle ira rejoindre la joyeuse communauté du palais d'Émeraude, suivie bientôt de Liliana, la cinquième épouse de Barbargent, répudiée pour s'être ouvertement moquée de lui. Toutes des artistes, elles vont bientôt créer un petit orchestre de chambre et organiser des tournées à travers le pays. Leur spectacle, inspiré par les fâcheuses aventures matrimoniales de Barbargent, va connaître un énorme succès et en même temps, bien sûr, ridiculiser le Maharaja. Le burlesque de leur opéra bouffe sert la lutte contre les stéréotypes sexistes. Par le rire, l'autrice dénonce les faiblesses de cet archétype d'homme tout en stimulant l'imagination des enfants. L'album peut servir de support pour aborder le thème de l'égalité des sexes et des rôles dans le mariage. La richesse du vocabulaire, les quelques références culturelles destineraient plutôt cette lecture à des jeunes de 8 ans et plus. Les images de Nella Bosnia contribuent pour leur part à nuancer la gravité du message. La beauté de ses dessins, la douceur des couleurs fondues dans une ambiance orientale, s'apparente fort harmonieusement au monde des contes et permettent aux jeunes lecteurs une distance dédramatisante bénéfique, sans nuire à la cause qui n'a rien perdu de son actualité. Avec l'illustratrice Nella Bosnia, l'autrice a signé d'autres albums sur le même thème, mais pour plus petits, notamment Arthur et Clémentine, qui met en scène un couple de tortues avec une fin revigorante. Clémentine va se libérer de l'emprise d'Arthur. En début d'ouvrage, l'éditrice italienne insiste sur le fait que les livres pour enfants qui abordent le thème du sexisme restent rares, alors que parallèlement, on s'efforce d'obtenir la parité dans nos sociétés. Ce livre peut devenir un outil de dialogue sur ce problème crucial. Ne nous en privons pas.
Et pour faire bonne mesure, je vais vous parler d'un autre album de Adela Tourine, illustré lui aussi par Neila Bosnia et publié chez Actes Sud Junior. Il s'agit de Rose Bonbon. Un album publié en 1976 en Italie, en 1977 en France par les éditions des Femmes, sous le titre Rose Bonbonne. En 1999 et 2008, Actes Sud réédite cet ouvrage sous le titre « Rose Bonbon ». En 1977, la presse parle de cet ouvrage comme d'un livre révolutionnaire, d'un pavé dans la mare jeté par les éditions des Femmes. Rose Bonbon est une petite éléphante. Elle appartient à une tribu dans laquelle les mâles sont gris et les femelles roses. Aucune éléphante ne saurait trouver un mari sans avoir auparavant atteint cette couleur. Et, pour accélérer la métamorphose, elles sont parquées dès la naissance dans un enclos où fleurissent anémones et pivoines, les fleurs qui contiennent les vertus colorantes. « Fillette, leur disait leur père, finissez bien toutes les anémones, mangez jusqu'au bout vos pivoines, sinon vous ne deviendrez jamais belle et rose comme vos mamans. » Vous n'aurez jamais les yeux aussi grands et aussi brillants qu'elle, et aucun éléphant ne voudra de vous plus tard. Et pour encourager le rose à venir, on habillait les petites éléphantes avec des chaussons roses, des collerettes roses et de grands nœuds roses qu'on attachait au bout de leur queue. Les petites éléphantes regardent avec envie, je cite, leurs frères et leurs cousins qui caracolent sous les arbres. Pâquerette mange elle aussi ses rations de fleurs avec application, mais chez elle, aucune transformation ne s'opère. Pâquerette reste désespérément grise. Son père la réprimande sévèrement, sa mère se désole, et tous deux finissent par se désintéresser d'elle. Alors, à quoi bon rester enfermé ? Rose Bonbon s'évade, court se rouler dans la boue, comme ses cousins. Les petites éléphantes la regardent avec désapprobation. Du jardinet, ses amis, les petites éléphantes, l'observaient. Le premier jour, avec effroi. Le deuxième jour, avec perplexité. Le troisième, avec curiosité. Et le quatrième, avec envie. Le cinquième jour, les plus courageuses d'entre elles commencèrent à sortir de l'enclos une par une. Et c'est depuis ce temps que tous les éléphants sont gris. Rose Bonbon est un album qui semble s'adresser aux vraiment petits. L'histoire est simple, courte, les illustrations plutôt mignonnes. Mais le message féministe est fort, et surtout, 50 ans après la première parution, plus actuel que jamais, à une époque où on trouve dans les supermarchés et les magasins de jouets des rayons bleus pour les garçons et roses pour les filles. Petite anecdote, quand les éditions des femmes ont traduit le livre d'Adèle, elles l'ont intitulé « Rose bonbonne ». Les éditions Actes Sud l'ont nommé « Rose bonbon » et un certain nombre de lecteurs et de commentateurs ont protesté en disant qu'on avait masculinisé le titre sans raison. Ainsi, voici ce que nous dit Bouma du blog Bouma Bib, consacré à la littérature de jeunesse. « Je trouve qu'avoir changé le bonbon en bonbon modifie les intentions données par le titre. » Le rose bonbon fait clairement référence à la couleur souvent attribuée dans l'imaginaire collectif à la féminité. L'utilisation du rose bonbonne va plus loin dans les revendications féministes, puisque la définition du mot bonbonne veut dire récipient en forme de bouteille ventrue, selon le Larousse, une référence claire à la maternité. Alors, certes, le mot bonbonne n'est plus guère utilisé actuellement et parle moins aux enfants et à leurs parents. Apprendre du vocabulaire ne fait pourtant pas de mal. Personnellement, je trouve surtout que le nouveau titre est plus lisse, moins revendicatif de la condition des femmes, souvent cantonnées au rôle reproducteur à la maternité. Certes, mais peut-être faut-il juste rappeler que le titre italien original est Rosa Confetto, ce qui signifie rose bonbon. De toute façon, la réédition d'un titre militant contre le sexisme et pour l'égalité entre les hommes et les femmes est toujours une bonne chose.
Tu nous lis une histoire d'aventure, s'il te plaît.
Moi, je veux une histoire n'importe laquelle, mais s'il te plaît, une histoire. Moi, ce que je voudrais, c'est une histoire avec du suspense. Beaucoup de suspense.
Moi, ce que je voudrais, c'est une histoire avec plein de magie.
Encore une histoire.
Encore une histoire.
Encore une histoire.
Les histoires n'attendent que vous pour être lues. C'est le slogan de l'association Lire et faire lire.
Des lectrices vous présentent leur coup de cœur en littérature de jeunesse et espèrent titiller votre curiosité. À vous d'en partager le plaisir avec les enfants.
Vous retrouverez ces présentations de livres sur le blog de Lire et faire lire. https://lire-et-faire-lire.la-ligue-10-10 en chiffres.org et sur le site de Thème Radio à la rubrique podcast.
L'aube à l'antenne, c'est Thème Radio.